Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po en France. Il existe sans doute moins de 200 activistes, une poignée de Che Guevara en barboteuse. Et la direction de Sciences Po Paris, la direction Paillasson, s'est couchée devant eux. Et Madame Retailleau, la ministre Carpette de l'enseignement supérieur, ministre Soumission, ministre Paillasson, a félicité Sciences Po. Aucune sanction ne sera prise contre ceux qui ont fait de Sciences Po l'annexe de la France insoumise. Ils ont empêché une étudiante juive d'entrer dans un amphi. Ils crient « Israël assassin ». Ils empêchent la majorité des étudiants de travailler. Peu importe, ils ont gagné. La direction cède, tétanisée, et le gouvernement valide, paralysé. L'accord de la honte, a dit hier François-Xavier Bellamy. Oui, Madame Retailleau, elle nous fait honte. Honte à ce que devrait être un gouvernement digne de ce nom et un ministre à la hauteur de sa fonction. Nous serons intraitables, nous ne laisserons rien passer, disent-ils à longueur du discours. Toutes ces phrases n'ont pas de lendemain. Gabriel Attal était allé à Sciences Po il y a quelques jours. Où est-il ce matin? Notre Premier ministre, qui bande les muscles et demeure aux abonnés absents depuis 3 jours. Ceux qui dénonçaient une entreprise de com avaient raison. Oui, monsieur Attal, de la com et rien d'autre. Du flanc, du vent, parole et parole. Je suis triste ce matin, triste du spectacle qu'offre le feuilleton Sciences Po, triste et affligé. Plus encore de son dénouement. Il est 9h01. Marine Sabourin est avec nous.
Ce drame à Châteauroux, le jeune Mathis, 15 ans, tué à coups de couteau samedi en fin de journée. Le suspect est un Afghan du même âge. Il a été placé en garde à vue avec sa mère. Ce mineur a déjà été interpellé 2 fois, à chaque fois pour des vols avec violence. Mais il n'a jamais été placé en détention provisoire. Écoutez l'émotion des habitants de Châteauroux, recueillis par Bande Bagaille.
C'est une catastrophe. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est plus possible.
Moi, je suis complètement chamboulée. D'avoir appris ça, j'en ai pas dormi de la nuit quasiment, là je suis vraiment pas bien.
Moi je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux et malheureusement ça peut arriver à n'importe qui quoi.
Des policiers envoyés en renfort à Givors, près de Lyon. Des bandes de jeunes ont semé le chaos dans la ville samedi soir où 2 voitures de police ont été incendiées. Il pourrait s'agir de représailles après le placement en garde à vue de 4 jeunes mineurs qui avaient agressé un autre jeune. Ces individus sont toujours en garde à vue ce matin. Et puis à Sciences Po, des syndicats de gauche appellent à poursuivre la mobilisation. La direction avait pourtant annoncé un retour au calme vendredi après avoir renoncé à toute sanction disciplinaire contre les manifestants pro-palestiniens. La direction cède face à une minorité violente d'Emmanuel Valls. Il était l'invité de Sonia Mabrouk. On l'écoute.
J'appelle ça de la lâcheté. J'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme. Et j'appelle ça de la soumission parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman, mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme. C'est un Munich de la pensée.
C'est à vous, Pascal, pour l'heure des pros.
Merci, et c'est Manuel Valls qui le dit. La séquence Sciences Po est un marqueur dans l'opinion publique et la réaction de ce gouvernement paillasson fait vraiment sens. Noémie Alioua, vous êtes journaliste et vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Elisabeth Lévy est avec nous, bien sûr. Merci à Audrey Berthaud d'être avec nous. Vous étiez dans la rue Saint-Guillaume l'autre jour et ces images ont été fortement marquées, évidemment. Je remarque d'ailleurs que sur les autres chaînes de télévision, quand une journaliste de CNews est agressée ou est prise à partie, il y a assez peu de réactions. Philippe Guibert est avec nous, Nathan Devers, Vincent Herouette. On commence par quoi ? Ben on commence peut-être par ce que disait François-Xavier Bellamy hier sur Sciences Po, parce que c'est vrai que l'antisémitisme décomplexé dans les universités françaises et l'absence de réaction, parce que ce qui est sidérant, c'est pas ces 200 activistes, ce qui est sidérant, c'est le gouvernement, c'est Madame Retailleau, c'est ces gens-là.
Et la direction de Sciences Po.
La direction de Sciences Po aussi, vous avez raison.
La négociation, quand même.
Mais vous avez raison. Mais le poisson pourrit toujours par la tête.
Mais vous avez raison. Je veux dire, c'est le pas de vague, le pas de vague au plus haut sommet de l'État.
C'est ça qui est sidérant. Oui, oui. Donc voyons ce que disait François-Xavier Bellamy.
Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte, plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes et y compris d'ailleurs contre les journalistes de CNews.
Mais comment être crédible ? Comment Gabriel Attal peut-il être crédible ?
Surtout que votre expression de gouvernement paillasson pourrait s'appliquer aussi aux contrôleurs aériens, aux cheminots qui... Si vous voulez, même si ce n'est pas la même thématique, on voit un gouvernement qui recule sur tous les fronts. Vincent n'est pas d'accord, je suis curieuse de savoir pourquoi, mais moi, quand même, qu'on négocie avec 60 gugus.
C'est la philosophie intrinsèque, c'est Sciences Po, quoi. Moi, je veux dire, la première chose, je trouve que Bellamy a raison, parce que 200 millions d'euros, c'est le budget annuel à peu près de la scolarité, ce que coûte la scolarité à Sciences Po. Et les étudiants ne payent que 20% de la somme. C'est-à-dire que ce sont... Alors, il y a les fondations privées, il y a les anciens élèves, etc. Mais en fait, 80%, l'essentiel de l'argent...
C'est public.
C'est vous, c'est les ploucs. C'est les Français moyens, c'est tous ceux qui n'ont pas fait Sciences Po qui payent cette petite coterie qui tient la rue moi je trouve que c'est quand même
c'est
un premier problème.
Personnes,
il y a un décalage,
Vincent,
entre cette école
Vincent, qui est... écoutez, c'est oui. 200 personnes.
Ouais.
C'est ça le sujet.
Non, okay.
Il y a 15 000 étudiants, c'est 200 personnes.
Mais où sont les autres, mon cher ami?
C'est le principe de la majorité silencieuse.
Voilà. Donc, il y a quand même une responsabilité collective.
Non, oui.
Celle de l'école, celle de la direction de l'école, celle des autres étudiants. Il y a une responsabilité collective. Je suis navré.
Non.
Mais si, mais je suis pas.
Mais non, parce que la majorité silencieuse. Il y a une responsabilité du gouvernement.
Ah oui, mais ça, on est tous d'accord.
Mais c'est ça l'essentiel.
La dérive, elle date de Descoings.
L'essentiel.
C'est la mec de wokisme aujourd'hui.
Si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, pas ministre de l'Enseignement supérieur, vous suspendez les cours, vous virez tout le monde et vous repartez à zéro. C'est ça que tu attends. Voilà, t'as 200 personnes qui mettent à genoux ce pays. Alors, on est ce matin avec Noémie Alioua. Et alors, vous étiez, si j'ai bien compris, avec les étudiants, mais vous êtes fait passer pour quelqu'un qui n'étudiait pas, simplement pour écouter ce qui se disait. C'est bien ça.
Surtout, j'ai essayé de ne pas montrer que j'étais journaliste, alors je me suis un petit peu grimée, j'ai mis un bandana et une étiquette de pro-palestinienne, parce que je voulais vraiment être libre pour pouvoir observer, pour pouvoir témoigner ensuite de ce que j'avais vu. Moi qui ai couvert plusieurs guerres au Moyen-Orient, si vous voulez, ça m'intéressait de savoir comment la jeunesse française, européenne, occidentale...
Là, on vous voit, hein, c'est la photo, là, voilà, vous êtes grimée pour pouvoir...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui... C'est comment, si vous voulez, cette jeunesse occidentale en arrivait à devenir, si vous voulez, complètement instrumentalisée par les islamistes radicaux. Vous avez vu qu'hier soir, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a publié un tweet avec des images de toutes les révoltes pro-palestiniennes qui ont lieu dans le monde entier. Ça veut dire que ces images-là, et ce que font ces étudiants-là, même s'il s'agit d'une minorité numérique absolue, est utilisé aujourd'hui par les plus grands islamistes et par les théocraties dans le monde. Et ça, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'un épiphénomène, ce qu'on peut considérer comme un épiphénomène, ça a des répercussions dans le monde entier. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de découvrir ce que je dirais une sorte de Ramallah au cœur de Paris, avec des slogans extrêmement radicaux, Israël assassin, génocide, etc. Donc vraiment... une radicalité extrême dans les discours et puis des kéfiers palestiniens partout avec une jeunesse qui est française. Et là, vraiment, pour moi, qui ai couvert des choses au Moyen-Orient, ça me paraît complètement fou, cette histoire de se dire que des gens qu'on pourrait qualifier d'éduqués, qui seraient une certaine élite, eh bien, sont aujourd'hui complètement soumis à cette idéologie islamiste sous prétexte d'humanisme, sous prétexte d'être pour, et ça, on peut l'entendre, pour les Palestiniens, parce qu'on peut, bien sûr, être sensible à la souffrance des Palestiniens, mais ils ne se rendent pas compte que leur émotion est complètement utile. Parce qu'ils n'ont pas la même émotion pour les Syriens, ils n'ont pas la même émotion pour les Yéménites, ils n'ont pas la même émotion pour beaucoup d'autres.
C'est pas le peuple palestinien qu'ils défendent, c'est le Hamas. Voilà, s'ils défendaient le peuple palestinien, ils pourraient défendre deux États.
Tout à fait.
Ils passent leur temps à dire qu'ils veulent la destruire. Enfin, ils le disent pas comme ça, ils disent de la mer au Jourdain, ils passent leur temps à dire.
Oui, exactement.
C'est ça qui me semble.
Ils l'ont dit, ce slogan. D'ailleurs, Rima Hassan, qui est venue, elle a dansé dessus. Je veux dire, c'est extrêmement radical. Il s'agit de jeter 6 millions d'Israéliens juifs dans la Méditerranée. C'est ça ce que ça veut dire, ce slogan. Et donc, c'est vrai, c'est complètement c'est absurde.
Je vous répète, j'en veux moins aux activistes
qu'à la direction
et qu'au gouvernement.
Oui,
c'est ça. Ma colère, entre guillemets, elle est là. Eux, ils sont dans leur rôle. Émeric Caron, il est dans son rôle. On en parlera tout à l'heure avec Audrey Berthaud. Il est dans son rôle d'activiste.
Bon.
Mais je le répète, c'est 200 personnes. C'est 200
oui,
personnes.
Vous savez que c'est les minorités radicales qui mènent le monde.
Mais bien sûr.
Parce que justement, la loi de la majorité est silencieuse. Donc ces minorités-là, il faut...
Mais alors, la majorité, c'est compliqué de la faire bouger, la majorité silencieuse. Mais en revanche, un gouvernement, il peut bouger.
Mais il y a les profs.
Il peut changer. Et je pensais vraiment, Gabriel Attal, je pensais qu'il bougerait. Je pensais que quand il était allé à Sciences Po, j'espérais, vous voyez, je suis naïf, en fait.
Non, mais vous avez
en fait, c'est que de la com, c'est que du flan, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Mais
voilà, ils sont incapables, ce sont des incapables dans l'action. Incapable dans l'action. C'est la parlotte, le blabla.
Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'agissent pas.
Parce qu'ils ont peur.
Eh oui. Mais peur de quoi, Pascal ?
Eh ben, ils ont peur. Ils ont peur.
De Télérama,
c'est tout.
Voilà.
Ils ont peur. Ils ont la trouille.
Parce que les CRS, ils ont la trouille. Ils attendaient un ordre.
Ils ont la trouille. Le trouillomètre à zéro.
Oui.
Moi, je pense, ils ont la trouille.
Je n'arrive pas à comprendre leur attitude.
Et parce qu'effectivement, je pense qu'ils n'adhèrent pas. Mais ils ont la trouille.
Non, ils n'adhèrent pas. Évidemment qu'ils n'adhèrent pas. Mais avoir la trouille de 200 étudiants.
Oui.
Moi, je pense qu'ils ont la trouille que Sciences Po s'effondre. Voilà. J'essaye de trouver une explication. C'est-à-dire qu'il y a une telle crise
de la direction. Vous avez vu qu'il y a des financements qui ont déjà été retirés.
Oui, absolument.
Il y a une telle crise
de la direction de Sciences Po depuis 4-5 ans que je pense que leur seule crainte, la seule explication vaguement rationnelle à cette absence totale de réaction, c'est la crainte pour Sciences Po.
Bon. Hervouet se trompe, me dit un intervenant qui nous écoute. Hervouet se trompe. Justement, le sujet, c'est le coût de la scolarité instituée par Descoings, 11 000 euros par an, qui a faussé la sélection par le mérite et a conduit au retour de ce que Mendès France appelait les fils d'archevêque, une sélection par la fortune et pas au mérite. D'où une sélection d'étudiants, tous issus de la bourgeoisie. Et pour compenser, Descoings avait institué les procédures spéciales d'administration pour les jeunes de banlieue. Autre catastrophe, rupture de l'égalité républicaine et ainsi de suite.
Ah bah, bon, ben voilà. Oui, il a transformé complètement l'école sur un axe progressiste déterminé.
Mais que le gouvernement entre...
Il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus d'oral, c'est discriminatoire.
Mais c'est pour ça que là, vous avez une occasion formidable de dire on les vire tous.
Tous dans la rue.
Ah ben non, mais tous ceux qui, effectivement, en sanction disciplinaire, vous virez toute la direction, vous gardez les profs visiblement, parce que les profs sont de qualité, ou en tout cas, mais vous partez à zéro. Ça serait de la gueule. Mais effectivement, ils en sont incapables. Nathan Devers qui n'a pas parlé.
Il y a à mon avis quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Les étudiants ont parfaitement le droit de se mobiliser pour exprimer leur soutien à la population de Gaza, pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne, leur colère vis-à-vis d'Israël. Très bien. Leurs revendications, quand on les regarde, n'avaient rien à voir. Il y a une revendication sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'ils demandaient la coupure des partenariats avec les universités israéliennes. Et ça, c'est la revendication, je pense, la plus parlante. Parce que dans toute démocratie, et en l'occurrence en Israël, les universités israéliennes sont un lieu de liberté d'opinion, mais en l'occurrence plutôt de contre-pouvoir, à une époque où tous les universitaires israéliens, pour la plupart, s'opposent au gouvernement. Donc si vous voulez faire ça... C'est pas être dans la critique politique, c'est être dans une forme de haine ontologique vis-à-vis de tout ce qui existe en Israël, opposition comprise.
Mais je vous le répète, j'entends ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement. C'est ça, oui, pour moi, l'essentiel. Enfin, Gabriel Attal avait nommé un administrateur. Monsieur Vichra a été viré.
Oui.
Il a demandé
à démissionné.
C'est ça, pour moi, l'essentiel.
Mais vous avez...
C'est que vous avez une France qui se couche devant 200 activistes. C'est ça, l'essentiel.
Oui, Pascal, quand même,
alors, Audrey Berthaud,
un
là.
Mot juste. Oui. Toutes les universités occidentales aujourd'hui, et finalement, c'est aussi, ça nous vient aussi d'Amérique.
Oui.
Je vous recommande le papier de Jeremy Stubbs sur Causeur. Il parle de l'esprit du Hamas qui souffle aujourd'hui de Harvard au MIT, etc. Mais là où je vous rejoins, moi, complètement, c'est que Gay, la patronne de Harvard, enfin, Madame Gay, je ne me rappelle plus son prénom, la patronne de Harvard a dû démissionner. La patronne de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill, a dû démissionner. Celle du MIT, je crois, il n'y a que des femmes, d'ailleurs. Celle du MIT, ça n'a pas... Donc, si vous voulez, à Columbia, c'est pas... À Columbia, elle reste, pour l'instant, ce qui est scandaleux. Mais il y a quand même, si vous voulez, dans tout le monde occidental... Vous avez raison, il y a les gouvernements et il y a aussi quand même ces étudiants, cette jeunesse qui est quand même la jeunesse.
Arrêtez avec cette jeunesse, ces 200...
Que font les autres?
Non mais...
Que font les autres?
Vous ne comprenez pas, Pascal. Il y a dans toutes les facs dans le monde entier, ça marche que, en Occident, en tout cas aux États-Unis, et on a importé ça. C'est le triomphe de l'idéologie des cours. On a importé ça donc au cœur du quartier latin, dans cette fac de première classe qui est désormais Sciences Po.
Hein,
oui, première classe. Il y a des beaux quartiers, ils sont bien traités. Hein. On a importé cette espèce de démon mental. Mais ailleurs, aux États-Unis, les patrons d'universités sont virés, alors que là, ils sont félicités.
Et voilà. Mais c'est ça l'essentiel. Je suis d'accord avec vous. Alors, Audrey Berthaud est avec nous. Vous la connaissez. Audrey, elle était sur le terrain. Et je la félicite d'ailleurs, parce que vous êtes courageuse d'être sur le terrain. Et vous avez été attaquée, malmenée, prise à partie. On va voir d'abord la séquence lorsque vous interrogiez. Vous interrogez Émeric Caron, qui acceptait de parler à CNews. Ouais. D'ailleurs, quand vous allez vers lui, il accepte.
Oui, il accepte de répondre à ma question tout de suite. D'accord. Il voit le micro, il voit très bien pour qui il répond et il le fait.
Donc c'est important de le dire parce que effectivement, il est dans une logique d'échange avec la presse en l'espèce, et il va être bousculé par un activiste qui vient vers vous. Et on va voir cette séquence.
Actuellement, laissez-vous se dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez, BFM pareil, mais partez, partez en fait, je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces lignes, sérieusement, mais partez, vous n'avez pas votre place, vous n'avez pas votre place, vous n'avez pas votre place, ils sont ici, on les dégage, ils ne sont pas les bienvenus, ils ont la cour de la mer sur nous, ils nous traînent de terroristes, ils sont pas les bienvenus, cassez-nous, cassez-nous, c'est nous là, vous n'êtes pas les bienvenus ici, allez-vous,
Bon, Audrey, on va citer le GRI avec qui vous étiez.
Oui, Raphaël Lazret, bien sûr.
Bon, on va souligner qu'Émeric Caron dit pas de violence, pas de violence à deux reprises, et que c'est important de le dire.
Oui, bien sûr.
Bien évidemment. Et je voulais que vous témoigniez de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez quitté la rue.
Donc on est en effet en train d'interviewer Émeric Caron. Là, il y a ce jeune homme qu'on voit sur la vidéo qui vient interrompre l'interview parce qu'apparemment, je pense que ça lui posait problème puisqu'il dit pourquoi vous leur répondez. Moi d'ailleurs, je dis, il a le droit en fait. C'est son droit de répondre à des journalistes, heureusement. Et donc là, il y a beaucoup de violence verbale, on le voit, il donne des coups à la caméra, ce qui d'ailleurs, puisque Raphaël donc, porte la caméra sur l'épaule, la caméra donne des coups sur sa tête, donc il n'a pas été, évidemment, il n'a pas pris de coups directement, mais indirectement, ce qui est aussi important de souligner. Et puis, voilà, en fait, il va entraîner tout un groupe de personnes, il va y avoir 10, 15, 20 personnes qui vont nous encercler. Et c'est là où, en effet, la scène devient un petit peu compliquée parce qu'on se sent en danger réellement et on se dit bah, il faut partir. Donc on le voit sur la vidéo, moi je m'écarte, Raphaël me suit et après c'est la suite de la vidéo qu'on ne voit pas, mais on s'exécute en fait puisqu'on est clairement menacé, on nous dit de partir, on le fait, on se met sur le côté et cet individu va revenir. En disant pourquoi vous êtes ici, vraiment avec un regard noir. D'ailleurs, on m'entend, je dis mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que je peux comprendre que, encore une fois,
je ne sais pas si une plainte va être déposée contre ce jeune homme, d'ailleurs, et la plainte, elle ne pourrait être déposée que par le groupe Canal Plus ou CNews. Je ne sais pas si une décision a été prise en ce sens-là, mais manifestement, il y a un acte qui, en dehors de la légalité, je pense qu'il y a là quelque chose qui mériterait pour le moins que ce jeune homme puisse s'expliquer sur son comportement.
C'est ça. C'est ça, parce que c'était de la violence.
C'est un étudiant de Sciences Po ?
Ça, on n'en a aucune idée, malheureusement. Donc voilà, après, en plus, on voit, il cache son visage, il veut vraiment pas. Il va d'ailleurs ouvrir un parapluie comme font les Black Blocs de
Alors,
temps en
j'imagine temps. En plus que ces élèves sont rarement les plus brillants de l'amphi. C'est aussi une manière pour eux d'exister, parce que faut le dire. J'ai un peu d'expérience en ce domaine. Je les ai croisés. C'est rarement les plus brillants de l'amphi. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est d'ailleurs un problème parce qu'ils empêchent parfois les autres de travailler.
Donc, parfois.
Oui.
Bonjour.
Non, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages
de
et j'ai reçu un message d'un étudiant de Sciences Po qui a apporté son soutien, qui m'a dit vraiment nous on vous soutient et attention de ne pas faire d'amalgame parce que
bien sûr.
Il ne faut pas que tout le monde pense que à Sciences Po ils sont tous comme ça. Non, c'est pas le cas.
Bon,
il faudrait dire un mot sur les les professeurs.
Je voulais qu'on écoute peut-être Émeric Caron qui a réagi sur France Info, je crois. Alors, ce n'est pas... Alors, c'est un tweet d'Émeric Caron, me dit « Vous êtes vraiment, vous et vos amis de CNews, la lie du journalisme, a-t-il dit. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. » Ça, c'est un tweet de M. Caron. Donc, effectivement, alors, vous êtes vous et vos amis de CNews, la lie du journalisme. Je remercie M. Caron de nous donner des leçons de journalisme. J'ai envie de dire, on sait quand même ce qu'il a fait dans ce métier et il était tellement brillant qu'il a été obligé d'en sortir. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. Je le remercie également de dire ça. Ce n'est pas ce sentiment. D'ailleurs, si monsieur Caron veut venir sur ce plateau, il est le bienvenu, si j'ose dire. À Gaza et plus généralement parce que CNews est une chaîne de fachos. Merci encore de traiter, vous êtes un fasciste, Nathan Dever, vous êtes un fasciste, Philippe Guibert, et moi avec. Je comprends parfaitement cette réaction de la foule étudiante. C'est curieux parce qu'il n'avait pas du tout cette attitude-là.
Non, c'est ça.
Alors, Gauthier Lebret est là. Gauthier Lebret veut dire quelque chose, manifestement. Gauthier, si vous me faites des grands gestes, ne me faites pas des grands gestes, alors venez au micro, venez dire quelque chose, si vous voulez dire quelque chose. Bah oui, puisque vous êtes en train de me parler. Alors, parlez au micro de Nathan Dever.
Je voulais juste vous montrer le portable pour que vous... Il faut bien comprendre que Émeric Caron, depuis que cette séquence a lieu, il légitime l'action de la foule.
D'accord.
Il légitime l'action de la foule et il reprend les insultes de la foule contre CNews.
Oui, mais c'est parce qu'il disait, son attitude n'était pas la même en direct.
Mais après,
Il a fait pas de violence en tendant son bras. Mais en effet, depuis.
Oui, mais il vous répondait en même temps. Il vous répondait.
C'est vrai. Mais
surtout, il intervient plus après.
D'accord. Bon, alors, pardonnez-moi, nous sommes en direct, comme vous le savez, mais je vous voyais, notre plateau est ce matin un peu trop petit. Alors, terminons avec le tweet de monsieur Caron, que j'ai pas fini de lire. Je boycotte votre chaîne d'extrême droite depuis longtemps. Mais il vous parlait. Donc c'est assez étrange.
Après, est-ce qu'il a
et je milite pour qu'elle disparaisse de la TNT gratuite.
C'est incroyable.
Mais c'est. Écoutez.
Non mais attendez, voilà. Il appelle quand même, si vous voulez, à ce qu'on mette au chômage des centaines de personnes. Mais c'est pas possible.
On va parler de M. Caron.
Franchement, il mérite pas.
Que les gens fassent une enquête et interrogent les gens avec qui il a travaillé dans ce métier. Comment il a travaillé dans ce métier, etc. Point.
La question n'est pas vraiment.
Les leçons de journalisme.
Quelles que soient les rivalités, les détestations entre journalistes, d'accord. Et elles sont nombreuses.
Oui.
Sur le terrain, en général, il y a un minimum de solidarité qui s'exerce, notamment en reportage, quand on est face à une adversité, une agressivité, soit de la foule, soit de la police, soit il y a toujours. Et notamment sur les terrains de guerre, où alors là c'est absolument impérieux, il y a toujours cette solidarité qui joue, ce corporatisme qui joue. C'est vraiment minable, alors qu'une consoeur vient de se faire insulter, de venir jouer les moukabarates en exigeant la censure de la chaîne et en dénonçant ces news fachos. C'est vraiment minable de la part d'un élu de la République et d'un ancien confrère.
Je
vraiment
vais terminer
minable.
Avec Audrey, sauf si vous avez quelque chose à rajouter
sur
cette période. D'abord, je dis que c'est pas facile pour vous d'être sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain aujourd'hui. C'est plus facile pour moi d'être en plateau. Je pense aux équipes de CNews, effectivement, qui peuvent être prises à partie. Je pense à nos amis JRI, je pense à vous, etc. Et effectivement, la violence et la radicalité de la séquence que nous vivons vous met parfois en danger. Je ne parle pas de l'espace médiatique qui nous met une cible sur le dos matin, midi et soir.
Parce qu'on a
la conséquence de tout ce qu'on voit dans certaines émissions.
Ce n'était pas la première fois. Et en effet, je trouve ça malheureux de ne pas pouvoir faire... juste son métier, quoi, parce qu'on est venu poser des questions. On vient en plus couvrir cet événement. CNews vient couvrir cet événement et on voit qu'on n'est vraiment pas les bienvenus. Ça, c'est compliqué.
Merci Audrey Berthaud. On est évidemment un peu en retard. Il est 9h23. Thomas Hill est avec nous et je vais le saluer pour Europe 1 qui va prendre la suite sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce qu'il est avec nous, Thomas Hill ?
Bonjour Pascal.
Je ne vous vois pas, Thomas.
Eh bien, je suis là. Je suis
vous
bien
êtes
là,
un rassurez-vous. Peu comme dans Don Camillo. On vous entend, la voix du Seigneur. Ah ! On vous voit.
Vous me donnez un peu trop d'importance, Pascal.
Voilà. Non, mais c'est... mes références cinématographiques sont toujours jeunes, comme vous le savez. Bon, bonne journée à vous. Bonne émission, bien évidemment. Merci beaucoup, Audrey. Et faites attention, évidemment, à vous. Vous êtes une jeune journaliste et vous faites votre métier avec engagement et talent. Et faites attention à vous et faites attention avec tous les JRI, bien sûr, de la chaîne. À tout de suite. Il est 9h31, Maxime Le Guay va nous rappeler les titres du jour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après avoir suscité la polémique en appelant à venir bloquer Sciences Po Paris et en parlant de soulèvement, la militante franco-palestinienne Rima Hassan persiste et signe. Elle assume ce qualificatif et ses propos. Le député de la France insoumise Manuel Bompard a quant à lui souhaité que ce mouvement de contestation étudiant prenne de l'ampleur. Et puis à Gaza, le mouvement islamiste palestinien du Hamas doit donner ce lundi sa réponse à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël ainsi que des discussion sur une éventuelle libération d'otages. Une réunion tripartite doit avoir lieu au Caire entre l'Égypte, le Qatar et le Hamas. Et puis enfin, après la défaite de son dauphin Monaco à Lyon hier soir, le Paris Saint-Germain a été officiellement sacré champion de France. Un 12e titre pour ce PSG et le premier pour son entraîneur Luis Enrique. Les Parisiens qui ont désormais les yeux rivés sur leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund qui aura lieu ce mercredi.
Merci Maxime. Vous voyez pourquoi il faut toujours faire preuve d'autorité. Ça fait un mois que ça dure le feuilleton Sciences Po. Un mois. Un mois. C'est-à-dire qu'il faut prendre des sanctions tout de suite. C'est-à-dire qu'au le premier jour où vous avez un incident, il faut être implacable. C'est-à-dire sanction disciplinaire. L'étudiant est exclu. Et ça s'arrête immédiatement. Si tu ne prends pas cette décision tout de suite, si tu es faible, tu es dans ce feuilleton depuis un mois. On va terminer là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Simplement un dernier mot sur Émeric Caron.
Oui, parce que Émeric Caron, il y a les images et puis il y a tout ce qu'il a tweeté pendant 48 heures ce week-end. Déjà, sur les images, Audrey la racontait, effectivement, il ne dit pas de violence à deux ou trois reprises, il met son bras et puis il se désintéresse complètement de notre équipe puisque la séquence est encore plus longue et va continuer. Ensuite, Émeric Caron, il dit sur les réseaux sociaux ce week-end que c'était un moment de faiblesse de répondre aux questions de notre journaliste Audrey. Il se couche complètement. Il dit qu'il n'aurait pas dû nous répondre parce qu'on a une chaîne de fachos. Fachos, donc il reprend les insulte de cette foule haineuse et ensuite il légitime l'action de cette foule en disant qu'elle a bien fait de chasser l'équipe de CNews de ce qui s'est passé. Donc il n'a pas du tout correctement agi, Émeric Caron. D'ailleurs, on sent qu'il y a une certaine fébrilité chez lui parce que je crois qu'il a fait 12 tweets sur cette histoire depuis que ça s'est déroulé. Parce que non seulement on a bien vu que dans un premier temps il était lâche et qu'il n'a pas protégé notre équipe jusqu'au bout, et ensuite on a vu dans un deuxième temps qu'il était très lâche puisqu'il s'est couché devant ses activistes pro-palestiniens. De Sciences Po, voilà.
Bon, écoutez,
comme la direction d'ailleurs, et comme Sylvie Retailleau.
Voilà ce que.
Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, pour être tout à fait juste, il a fait une déclaration ce week-end en disant que c'était une minorité qui pourrait céder la vie.
Il n'y aura jamais de droit au blocage. Mais qu'est-ce qu'ils viennent d'entériner sinon un droit au blocage
Madame Retailleau, je remercie Monsieur Jean Bastère pour son action à Sciences Po, qui doit rester un lieu d'étude, de respect et de débat serein. Honte à ceux qui instrumentalisent les passions, leur cynisme, les aveugles. Honte à vous, Madame Retailleau. Honte à vous. Honte à vous. Vraiment honte à vous. Bon, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon
a une plainte de Sylvie Retailleau, oui, pour sa comparaison avec, vous savez, le directeur de l'université de Lille. Il l'avait comparé au nazi responsable de la planification de la solution finale Eichmann. Bon. Et donc Sylvie Retailleau a annoncé porter plainte contre lui au nom de l'État.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, qui porte les paroles les plus intelligentes, parfois ? Ce sont des gens qui sont de la société civile. Vous avez dit quoi ?
Vous, bien sûr. Mais si.
Je voudrais vous faire écouter, on va l'écouter un peu longuement. Parce que ce qu'il a dit est formidable. C'est Yvan Attal. Ah oui. Yvan Attal qui est comédien, qui est réalisateur.
Mais c'est comme Retailleau, vous voyez, dans toutes les familles, comme ça, il y en a un qui dit le bien et l'autre qui dit pas bien.
Arrêtez d'ironiser.
Vous voyez Attal d'une manière qui est quand même très sévère.
Mais arrêtez, je vous assure, c'est des sujets graves. C'est pas des sujets graves.
Non, la bande de crétins qui sont dans la rue Saint-Guillaume et qui font le spectacle sont des gens odieux, c'est détestable, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est la guerre, effectivement, dans le monde, et notamment ce qui se passe au Proche-Orient. C'est pas grave.
Mais Vincent, les étudiants juifs ont peur dans les facs françaises C'est pas grave, ça.
Mais c'est pas grave quand vous êtes juif et que vous ne pouvez plus entrer.
L'espèce de virus qui est en train de saisir la société française, il est grave. La façon dont on importe ce conflit ici, ça, c'est grave.
Vous savez ce qu'on dit, les étudiants juifs et c'est grave.
C'est ça que je dis.
Voilà. Oui, mais pardon.
J'arrive pas à prendre au sérieux, pardonnez-moi. Le petit moukabarat, là, qui joue les gros bras, qui gesticule devant une caméra et qui fout dehors deux jeunes femmes qui font leur travail. J'arrive pas à prendre ça au sérieux.
Mais vous avez tort de pas le prendre au sérieux, puisque Science possède. Vous avez tort de pas le prendre au sérieux, puisque Science possède.
Non, l'évolution de Sciences Po depuis 10 ans, ça m'embête.
C'est ça qui est fou.
Mais c'est pas de découvrir aujourd'hui. C'est pas 200 personnes dans la rue Saint-Guillaume qui me posent problème.
C'est plus grave que ce que vous croyez, franchement. Moi, j'ai été à Nanterre. Oui. Des étudiants juifs ont peur d'aller à la fac.
Bien sûr.
Je vous assure. On l'a jamais.
Yvan Attal. Bon, je voudrais qu'on revienne sur Yvan Attal. D'abord, c'est un des producteurs, réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Premièrement. Évidemment, il n'a rien à voir avec Gabriel Attal, bien évidemment.
Retailleau n'a rien à voir avec Retailleau.
Oui. Bon. Et il était chez Frédéric Aziza.
Encore.
Mais Frédéric Aziza, il sait. Ils lui disent des choses qu'il ne dirait peut-être pas sur un autre plateau, parce qu'il a un talent, c'est de faire accoucher manifestement les gens. Donc je voudrais qu'on l'écoute sur 3 ou 4 passages. Tout d'abord, il a évoqué Jean-Luc Mélenchon.
Il sait ce qu'il fait, Mélenchon.
Multiplie les déclarations antisémites, on va dire.
Hein. Il n'est pas idiot, enfin, il est totalement crétin de faire ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Il est vrillé, il est fou. Il est antisémite.
C'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir, sa tronche, et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui.
Mélenchon.
Hein.
Bon, premier passage. Deuxième passage, l'antisémitisme et la gauche.
L'antisémitisme aujourd'hui, virulent, est à gauche, mais ça fait un moment déjà.
Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme.
Depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien ?
1000 et quelques pourcents.
Ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi.
Tout le monde, c'est-à-dire ?
Dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour. Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose. Que de l'antisémitisme, hein. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, les Haut-Soudan, et machin, etc. Ben » non, mais évidemment, évidemment, il y a un antisémitisme clair et net, là-bas qu'on n'importe rien. C'est le même conflit, c'est l'antisémitisme.
Gérard Haro, l'ambassadeur Gérard Haro, qui était l'invité il y a quelques semaines ici, il dit « Israël, c'est le juif des nations ». C'est ce que disait aussi, on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça.
L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des juifs de France, c'est le même. C'est la haine des juifs.
Et j'aime beaucoup Yvan Attal, pardon. Je pense simplement que, d'abord, Il y a aussi une réaction en France. Moi, j'ai trouvé que après le 7 octobre, une grande partie de la France, au contraire, s'est très bien tenue, a été aux côtés des Juifs et aux côtés d'Israël. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut faire attention. Il faut remercier aussi, enfin, pour remercier, ça me paraît normal, mais il faut rappeler qu'une grande partie de la communauté nationale.
Il dit pas le contraire.
Il dit de partout. C'est quand même très localisé et dans une certaine gauche.
Oui, mais pas dans toute la gauche.
Dans une certaine gauche.
Et dans un espace médiatique.
Absolument, vous avez raison, mais c'est pas la peine de dire ça comme si j'étais contre.
Mais non, parce que
vous avez raison.
D'abord, il a raison. Oui. C'est la haine des Juifs,
oui.
Bien sûr. Et c'est dans un certain et on sait très bien pourquoi.
Pascal.
Voilà, parce que vous ne voulez pas heurter une certaine population, non, notamment dans l'espace médiatique. Je suis désolé de vous le
mais
dire.
Mais en Israël, on peut pas dire que c'est que de l'antisémitisme.
Voilà. Oui, Philippe Guibert.
Non, Yvan Attal a parfaitement raison sur Mélenchon. Ce qu'il dit sur Mélenchon est clair, net, précis et hélas vérifié depuis plus de 6 mois. Mais d'une part, c'est pas toute la gauche. Je vous ferai remarquer juste que s'il y a une progression de Glucksmann dans les intentions de vote européenne, c'est peut-être pas tout à fait par hasard et qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui n'a pas digéré ce qu'a fait Mélenchon. Je dis juste ça comme élément de
nuance. Et l'ANUPS.
Et, mais elle est finie, l'ANUPS, donc vous parlez de quelque chose qui n'existe plus.
Mais l'ANUPS, elle va revenir.
Mais,
ils doivent tous,
Pascal, vous êtes visionnaire.
Oui, ils doivent tous leur siège.
Mais Glucksmann se construit contre Mélenchon, et si aujourd'hui il est à 13-14%,
si
c'est
demain,
contre Mélenchon.
Si demain tu as des législatives, ils doivent, je vous l'ai dit,
Monsieur
Faure doit son siège à Jean-Luc Mélenchon, Monsieur
Ballot
doit son siège à Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Guedj doit son siège à Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé de vous le dire, mais ne vous pensez pas.
Mais vous croyez pas.
Dernier point,
vous ne croyez pas qu'ils sont élus s'il n'y a pas la NUPES?
Dernier point.
Ils reviendront, ils iront tous comme Canossa, tous pour sauver leur voiture à cocarde.
Glucksmann se construit contre Mélenchon.
Ils ont quand même mis longtemps à dénoncer la NUPES. Hein. Franchement, Jérôme Guedj, on l'a pas entendu.
Elle n'existe plus, la NUPES. Nous ne nous battons pas contre quelque chose qui n'existe plus.
Bon,
et dernier point, le conflit israélo-palestinien, je suis désolé, il y a une dimension territoriale. Il faudrait quand même pas passer sous silence et oublier, me semble-t-il.
Nathan Devers, et après on va écouter.
Une petite remarque. Si on voulait ironiser, mais c'est vrai que moi j'aimerais savoir quelle est la potion magique que donne Frédéric Aziza à ses invités, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Mais plus sérieusement, Yvan Attal, il vient de la gauche. Il vient de la gauche.
Sûr.
Il a toujours été de gauche.
Exactement.
Et ces genres de paroles doivent être des alertes. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des critiques, c'est pas des coups bas politiques où on critique la gauche en saisissant un prétexte. C'est la parole d'un homme blessé. Et ils sont très nombreux à gauche, les gens qui sont blessés par ce que vous avez appelé une certaine partie de la gauche, mais qui n'est pas une petite partie non plus, et qui font part de cette blessure immense et qui ne sont pas entendus. Je crois qu'il y a une autre partie dans l'interview où Yvan Attal parle d'un antisémitisme structurel dans cette partie-là de la gauche et qui n'est pas condamné. Et ça, à mon avis, c'est un sujet qui est absolument central. À savoir que vous avez, évidemment, ils ne dépassent jamais la ligne rouge, ils ne seront pas condamnés pour antisémitisme, mais ces personnes-là reprennent toute une phraséologie qui s'inscrit dans la longue histoire de l'antisémitisme française et qui est très claire.
Troisième passage de Yvan Attal, pour qui voter, il ne sait plus.
Bah oui.
Je ne sais plus pour qui je dois voter. Je ne sais plus qui.
D'ailleurs, vous allez voter ?
Je ne sais pas.
Aux européennes ?
Je ne sais pas. Je ne sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football, puisqu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes, ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades, le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même.
Ouais.
Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français, parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. C'est quand même fou de ne plus être moi-même tous les jours de ma vie dans mon propre...
Mais
bien sûr que ça pèse.
Ça pèse.
Mais bien sûr.
Je trouve que c'est une des paroles les plus intéressantes, les plus émouvantes aussi, qui était dit sur ce sujet, parce qu'il touche la réalité de notre pays aujourd'hui, le communautarisme. Je ne peux plus être moi-même, je ne peux plus partager avec d'autres Français. Je pense que c'est pas souvent arrivé dans notre pays et c'est peut-être jamais arrivé. Ce qu'il dit est d'une... C'est pour ça que les artistes disent des mots parfois sur des choses. Je ne peux plus être moi-même parce que je sais qu'on veut me couper la tête. C'est-à-dire qu'on en est là. Dernier passage, c'est pesant d'être juif.
Oui, c'est pesant d'être juif.
Ouais,
ouais. Ça pourrait ne pas l'être.
Ouais.
C'est pas obligatoire que ce soit pesant, mais ça l'est. Mmh. Ça veut dire, c'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est juif, sans que ça lui pèse? Bah, pour l'instant, non.
Et chacun comprend que c'est les juifs aujourd'hui et c'est les chrétiens demain.
Oui, c'est les chrétiens aujourd'hui aussi.
Et non, juste, mais sur le sol de France.
Oui, oui, monsieur. Et je voulais juste dire un mot sur Yvan Attal. il y a quelques années, il m'a donné une interview de causeur au moment où il a fait « Ils sont partout ». Mmh. Un film qu'il a eu beaucoup de mal à monter.
Oui.
Et il m'a raconté aussi déjà à ce moment-là que même dans les milieux du cinéma, il m'a dit « Je ne vais plus dans les dîners parce que j'entends des horreurs, je ne peux plus supporter cela ». Et que dans le milieu du cinéma, c'était terrible.
Bah, voilà.
D'ailleurs, c'est très très courageux de sa part de s'exprimer de cette façon-là et de dire les choses comme ils les pensent. Parce que la plupart des gens du milieu du cinéma préfèrent taire leurs opinions quand elles ne sont pas dans la majorité. Donc il est très courageux, déjà, de s'exprimer et de se positionner aussi fermement sur ces questions-là.
Ce soir, on vient d'apprendre, là, les jurés du Festival de Cannes qui ont été nommés. C'est une synthèse. Allez-y, c'est une synthèse de... Ben, vous verrez, alors Omar Sy, évidemment, a intégré le jury, mais c'est une... C'est une synthèse de ce qu'il faut penser aujourd'hui dans ce monde et dans ce milieu culturel. Voilà, c'est comme ça. Et il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais Eva Green et Kore-eda sont entrés.
Kore-eda,
oui, sont entrés dans le jury et Omar Sy. Donc c'est voilà, quand vous prenez Omar Sy, forcément, vous prenez un positionnement. Puisqu'il fait de la politique, il le dit. Il dit qu'il faut se réveiller en France. Omar Sy, il vient régulièrement, il quitte les collines d'Hollywood et Los Angeles pour régulièrement venir nous donner la leçon de ce qu'il faut penser, comment il faut penser, réveillez-vous en France. Et il a attaqué la France du passé. Bon, j'aimerais lui dire que la France du passé, elle a quelques qualités.
La France de l'avenir, c'est pas terrible. Hein.
Elle a quelques qualités, la France du passé.
Il faudrait surtout lui dire que, bien qu'il soit extrêmement populaire en France, parce que c'est un bon acteur, les Français en ont marre d'être sermonnés par des gens qui vivent en première classe à Los Angeles, qui viennent à Cannes en jet privé, et qui ont une espèce de mépris, qui passent leur temps à faire la leçon aux populos. Il y a aussi ça qui est parfaitement pénible. Hein.
Je suis d'accord avec vous, mais là aussi, avec l'accord de l'espèce médiatique qui le regarde comme si c'était le Messie qui était arrivé sur Terre. C'est France Télévisions, évidemment, qui est maintenant partenaire du Festival de Cannes. Donc, bah, vous avez effectivement toute cette influence du service public dont on parle matin, midi et soir. Interview passionnante d'Anna Finkielkraut dans le Figaro ce matin. Vous l'avez sans doute lu. Le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Il est allé en Israël. Il est resté, il voulait voir. Le Hamas, en effet, n'est pas un problème, dit-il. C'est un ennemi qui veut non seulement la perte d'Israël, mais l'extermination des Juifs, comme il l'a montré le 7 octobre, et qu'il faut donc impérativement mettre hors état de nuire. La plupart des Israéliens sont d'accord sur ce point. Netanyahou est le problème, dit-il. Un de mes interlocuteurs, professeur de sciences sociales, mais Jacques Attali dit la même chose. Hein. Un de mes interlocuteurs, professeur de sciences sociales à l'université de Tel Aviv, m'a dit d'entrée de jeu, le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Il est le problème, il bloque toutes les issues, ferme toutes les portes, sabote consciencieusement toutes les solutions. Alors même que Tsahal plaide pour le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, le premier ministre israélien s'y refuse obstinément. Pourquoi ? Parce qu'il perdrait aussitôt le soutien des extrémistes de son gouvernement.
C'est exactement ça.
Bah bien sûr, donc c'est voilà, c'est intéressant cette parole-là.
Et il faut vraiment féliciter Alain Finkielkraut, je trouve, de parler vrai de cette façon.
Et ça fait longtemps qu'il le fait sur Israël. Et ça fait longtemps qu'il dénonce le gouvernement israélien.
Oui, c'est un positionnement politique qui existe en Israël et qui est de plus en plus majoritaire. La contestation de Netanyahou et la question de savoir quand est-ce qu'il va enfin enfiler ses responsabilités et éventuellement démissionner. Il y a eu des démissions de grands généraux de l'armée parce qu'ils avaient une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc les gens attendent maintenant, le plus rapidement possible, des élections qui permettraient d'élire un successeur et de refaire tourner la machine. La question, c'est aussi de savoir est-ce que c'est le bon moment. Parce que malgré tout, et là peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Finkielkraut, que j'admire par ailleurs, véritablement là la question c'est quand même celle du Hamas. Oui. Elle est prioritaire, elle est existentielle. Netanyahou, c'est une question politique qui viendra ensuite, évidemment que cette question apparaîtra. Mais il me semble quand même que la question existentielle du Hamas, de l'Iran, du Hezbollah, de tout ce qui a été mis en place pour déstabiliser le Moyen-Orient, cette question-là, elle est existentielle et fondamentale.
Alain Finkielkraut, ses positions sont très courageuses, mais sur le constat politique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, au sens, et ce n'est pas pour défendre Netanyahou, mais je trouve ça trop facile de le mettre en cause lui, parce que c'est avant tout le système constitutionnel, qui est un peu comme celui de la 4ème République, où vous avez des partis de dégénérés, de dingos messianistes, qui de toutes les manières pèsent.
Ils sont puissants,
et donc Netanyahou, avec énormément de cynisme, a fait alliance avec eux, mais ce sont ces partis-là qui posent problème, et même si Netanyahou partait, il continuerait de peser dans la vie.
Non, parce que tu peux changer, Nathan, tu peux changer de majorité.
C'est un système qui veut être totalement démocratique et qui donne du pouvoir à des micros trop partis qui sont parfois radicaux.
Oui, c'est proportionnel sans seuil qui fait que des partis à 3% peuvent...
Louis Alliot, qui nous écoute, et ce n'est que son témoignage, bien sûr, dit « C'est beaucoup plus grave que ce que vous dites ce matin. J'ai le témoignage d'un boycott particulièrement efficace dans le domaine du commerce international et notamment des fruits et légumes. Plus aucune grande surface ou très peu ne prend des produits israéliens. » Le secteur affiche moins 70% et plusieurs entreprises commencent à tirer la langue. Dans les grandes surfaces, étals renversés, menacés, etc. Dans les entrepôts, les ouvriers d'origine musulmane ne veulent pas charger les palettes avec des produits d'Israël, etc., etc. Enquêtez, me dit-il, vous verrez, c'est effarant. C'est le témoignage de Louis Alliot, maire de
Perpignan.
De Perpignan.
Non, d'accord, ça c'est la réalité.
Bien, bah, écoutez, oui. Et je voulais également, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, citer le témoignage de Raphaël
Lazrec, qui est le jury, qui était avec Audrey.
Exactement.
Qui avait la caméra dans le
voilà, et qui a dit, j'étais avec Audrey, on part régulièrement ensemble sur des manifestations qui peuvent être compliquées. Cette fois-ci, elle était beaucoup plus virulente que d'habitude. J'en ai fait des manifestations du 1er mai contre la réforme des retraites, mais celle-là sera celle qui me marquera le plus, nous étions devant Sciences Po, nous avons vu le député Caron, nous avons voulu lui donner la parole. C'est à ce moment-là que ça a dégénéré. Il nous a insultés.
Là, il ne parle pas du député Caron, voilà, il parle de l'homme qui frappe l'homme. La caméra.
Il a frappé la caméra à plusieurs reprises. Nous nous sommes exfiltrés car la situation était très dangereuse. Nous avons reçu de nombreuses insultes, fachos, connards, dégagés. Une fois exfiltrés, nous étions en état de choc de ce qu'il venait de se passer. Tout le monde a assisté à cette scène de violence et d'intimidation de la part des jeunes. Malgré ça, le même jeune est revenu me voir pour m'intimider. Vous avez des couilles d'être encore ici, dit-il. Mais ce jeune, j'espère que, effectivement, je pense qu'il... devrait s'expliquer.
Ah bah, je ne
sais pas sous quelle forme, mais il devrait s'expliquer. Un groupe de 5 jeunes, comprenant le jeune qui nous a agressé physiquement, est resté à me fixer, cagouler, type Black Blocks, pendant plusieurs minutes pour m'intimider, me faire ranger la caméra et partir. Ce qui me choque le plus, c'est que je n'ai pas l'impression qu'Émeric Caron ait fait quelque chose pour nous aider à sortir de cette situation dangereuse. Il n'a pas agi pour nous défendre. Ce que j'ai ressenti, c'est que si de nous-mêmes, avec Audrey, nous n'étions pas partis, nous aurions pu être atteints physiquement plus gravement. Je suis choqué de l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux et des tweets de M. Caron, dit-il, Raphaël Lazrec, qui est donc journaliste reporter d'images et à qui nous adressons tout notre soutien, bien évidemment. Je voulais vous dire, on va marquer une pause, et je voulais vous dire que ce matin, manifestement, dans l'actualité, il y a ce professeur qui est accusé d'islamophobie, ce proviseur, qui a voulu expérimenter l'uniforme à l'école, c'est une école de Neuilly-sur-Marne, il s'appelle Nicolas Bourrez, et manifestement, il est en danger, et Madame Belloubet est aux abonnés absents.
On va revenir sur ce qu'on a vécu à Maurice.
Et il a pris la parole sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on va l'entendre, ce monsieur Nicolas Bourrez. On en est là dans la société française. Depuis quelques semaines... vous avez une tension, là c'est un proviseur, il est accusé d'islamophobie, c'est exactement la même chose qui s'est passée...
Mais à cause de l'uniforme.
Voilà, bah, il a voulu imposer visiblement un uniforme, et il est accusé d'islamophobie, et il a été obligé de prendre la parole ce matin sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas de vague, ça continue. Ça continue. Donc malgré la parlotte. Donc,
mais le pas de vague est terminé, souvenez-vous.
Mais rien n'est terminé, évidemment.
Nous serons intraitables.
Voilà, nous serons intraitables, tout ça. Bon, je vais remercier Noémie Alioua, qui est journaliste, et merci de votre témoignage. On avait prévu ce matin de recevoir Wally Bordas, histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir. On va le recevoir, mais bien sûr, l'actualité étant forte, on parlera surtout de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec la France insoumise, et sans doute moins de ce qui s'est passé dans l'histoire de la République, parce qu'il nous reste à évoquer Châteauroux. Et puis à parler peut-être de l'Iran avec vous, cher Vincent Hervouette. Et 9h53 tout de suite. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, vous avez ce témoignage de Nicolas Bourrez, B-O-U-R-E-Z, je ne sais pas si on prononce le Z ou pas, qui dit « Moi, directeur à Neuilly-sur-Marne, je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Hashtag Nicole Belloubet, hashtag Gabriel Attal, voilà pourquoi. » Et il explique pourquoi. Une équipe de CNews est partie, pour tout vous dire, à Neuilly-sur-Marne et nous attendons, bien évidemment, d'enquêter, de savoir précisément ce qui peut se passer avant de vous faire écouter le témoignage de ce directeur à Neuilly-sur-Marne. Mais je ne doute pas que si nous ne le faisons pas dans la prochaine demi-heure, je ne doute pas que aujourd'hui vous pourrez l'entendre sur l'antenne de CNews. Il est 10h, je vous le disais, on va recevoir et nous recevons Wally Bordas, histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir. Et on verra peut-être que finalement, lorsqu'on dit que la bordélisation de l'Assemblée nationale, elle a existé avant aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Tout à fait, elle date pas d'hier. Elle date pas d'hier.
Et on en parlera tout à l'heure, mais Maxime Le Guay nous rapporte les dernières informations. Et je remercie évidemment Gauthier Lebret qui était avec nous ce matin, toujours remarquable et important pour cette émission.
J'aime vous l'entendre dire.
Et précis, et beau.
Maxime, c'est à vous, Maxime.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Retour au calme à Givors, près de Lyon ce matin, après les violences et dégradations de ce week-end qui ont émaillé la commune dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences urbaines ont éclaté, des jeunes ont incendié les poubelles de la ville et tirant aux mortiers d'artifice. La préfecture du Rhône avait promis des moyens supplémentaires de police pour rétablir le calme dans la commune. Et puis enfin, de la pluie dans les Pyrénées-Orientales. Après 2 ans de sécheresse historique, des précipitations ont commencé ce dimanche et devraient se poursuivre dans les prochains jours. Une annonce réjouissante pour la région qui fait face depuis plusieurs mois à un spectaculaire manque d'eau. Et enfin, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite. Première étape d'une tournée au Moyen-Orient destinée à promouvoir une trêve entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken qui se rendra ensuite en Jordanie et en Israël et qui rencontrera plusieurs de ses homologues du pays du Golfe afin de discuter des plans de reconstruction de la bande de Gaza après la guerre.
Merci beaucoup Maxime. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice, vous la connaissez, un adolescent de 15 ans, bonjour Sandra, bonjour. Un adolescent de 15 ans tué à Châteauroux. L'adolescent est décédé visiblement dans une bagarre et il a été tué à l'arme blanche et l'auteur présumé des faits est un Afghan âgé de 15 ans. Il a été arrêté, a indiqué dimanche Agnès Aubouin, qui est le procureur de la République. Je vous propose de voir le sujet et vous allez nous donner les dernières informations, Sandra.
C'est à ce carrefour de Châteauroux que, selon la procureure de la République, une bagarre éclate ce samedi aux alentours de 18h. Mathis, un adolescent de 15 ans, reçoit plusieurs coups de couteau mortels. Chez les habitants du quartier, l'émotion, mais aussi la colère prédomine aujourd'hui.
C'est une catastrophe. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est plus possible.
Je suis complètement chamboulée d'avoir appris ça. J'en ai pas dormi de la nuit quasiment. Là, je suis vraiment pas bien.
Moi, je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux. Et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, quoi.
Selon la procureure de la République, l'auteur présumé des faits est un autre adolescent âgé également de 15 ans. Ce mineur afghan en situation régulière sur le territoire a été interpellé environ 2 heures après les faits et placé en garde à vue. Il n'a jamais été condamné par la justice, mais a déjà été arrêté 2 fois depuis le début de l'année, à chaque fois pour vol avec violence en réunion sous la menace d'une arme. Pour Jérôme Retailleau, du syndicat Alliance, ce drame témoigne d'une généralisation de la délinquance à l'ensemble du territoire.
Mes collègues aujourd'hui qui sont intervenus hier sont dans un état assez compliqué en fait. On vit en fait aujourd'hui dans des petites communes de 60 000 habitants une délinquance que jusqu'à présent on connaissait plutôt dans les grandes agglomérations, et cet ensauvagement en fait de la société aujourd'hui il commence un petit peu malheureusement à venir dans des communes qui étaient jusque-là on va dire plutôt tranquilles.
La mère du suspect a également été placée en garde à vue et une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.
Un gosse de 15 ans.
C'est incroyable.
Vous vous souvenez de nos discussions quand je vous disais que personne n'est à l'abri, vous me disiez si. Vous vous souvenez? Non, mais un gosse de 15 ans.
C'est invraisemblable.
Est-ce que vous dites oui, plus personne en France, tout le monde. Est-ce que vous acceptez cette idée?
Que je me sens menacé aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça, Pascal.
Mais Châteauroux.
Je vous accorde complètement que la montée de la violence est abominable et terrible.
Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux, c'est avec une profonde tristesse et une grande consternation que j'ai été informé samedi soir du décès tragique d'un adolescent. Alors même lui dit à une rixe, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, suite à une rixe survenue aux alentours de 17h30 au sein du quartier Saint-Denis. Mes pensées vont en premier lieu aux parents, à la famille et aux proches de la victime, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances et tout le soutien des Castelroussins. L'auteur de cet acte inqualifiable a été très rapidement identifié et appréhendé. Je souhaite que la peine soit exemplaire et tient à dénoncer cette ultra-violence qui gangrène notre cité. Ce gosse de 15 ans, dites ça à ses parents. Qu'un Afghan qui se balade avec un couteau, qui évidemment n'a rien à faire sur le sol de France. Rien. Rien à faire sur le sol de France.
Le problème,
c'est... Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il était en situation régulière, peut-être d'ailleurs, visiblement.
Mais il y a un problème avec les Afghans, il faut avoir le courage de le dire.
Il faut stopper ça.
Et surtout,
jusqu'à combien de morts ça va continuer ? Enfin, si c'est votre enfant.
Bien sûr. Bien
la sécurité, bien que relevant de la compétence première de l'État, est une priorité absolue de l'action municipale. Nous n'avons d'ailleurs jamais mis autant de moyens que ces dernières années pour la sécurité des habitants. Je ne renoncerai jamais à investir dans ce domaine. Il faut désormais que la justice soit intransigeante et d'une sévérité extrême. Mais c'est pas la justice. C'est ça qui est... Même lui, M. Averroux, il ne faut plus faire entrer sur le sol de France des gens dont l'asile politique est dévoyé.
Et surtout qu'ils l'ont d'office, hein, je crois, les Afghans aujourd'hui.
C'est ça
qui est... De ma part, on leur donne direct... On leur donne
alors, il y a des réactions. Jordan Bardella, c'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Jordan Bardella, évidemment qu'il a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Le jeune Baptiste, 15 ans, a été tué au couteau par un mineur afghan, tout juste relâché par la justice. J'ai une peine immense pour sa famille. Mais c'est... en fait, c'est invraisemblable ce qui se passe tous les jours dans ce pays. C'est invraisemblable.
C'est pas que le droit
Éric Ciotti, le tueur avait déjà été mis en examen la semaine dernière pour vol aggravé avec violence et laissé en liberté.
Le problème, c'est que le droit d'asile, il peut être accordé à des Afghans, des gens qui arrivent d'une guerre civile du XVIe siècle. Je caricature à peine. Et donc, on accueille des personnes qui ont une culture de la violence qui n'a rien à voir.
On accueille des talibans.
Ne les accueillons pas.
C'est pas des talibans.
On accueille aussi des talibans.
Le problème, ne les accueillons pas.
Il y a des talibans qui ont demandé l'asile.
Ne les accueillons pas. Est-ce que ça vous va ?
Est-ce que ça me va ? Mais si on les accueille et si on en accueille certains, il doit y avoir un accompagnement particulier parce qu'on ne peut pas laisser ces gens dans la nature.
Ils possible. Le sont. Et ils tuent les enfants français.
Accueillons les femmes.
On se méfie des généralisations.
Bah, accueillons
ils ont tué Matisse, s'ils pouvaient.
Accueillons les femmes. Les femmes afghanes et iraniennes.
Sandra Buisson, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin ?
Des précisions peut-être sur effectivement le passif de cet adolescent. Il a déjà eu maille à partir avec la police deux fois, donc il a été arrêté en février et il a été arrêté la semaine dernière. La semaine dernière, il a été mis en examen pour vol aggravé avec violence. Et vous sous-entendiez effectivement qu'il avait été libéré par la justice la semaine dernière, donc il a été laissé libre sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire avec des obligations. Pourquoi est-ce qu'il a été laissé libre ? Parce que, en l'état, avec son profil, le code de la justice pénale des mineurs ne permet pas de le placer en détention provisoire pour des faits qui étaient de nature correctionnelle. Il n'a aucun antécédent judiciaire et donc, à ce moment-là, si une peine correctionnelle est encourue, on ne peut être placé en détention provisoire que pour des critères très précis, notamment si on a rompu son contrôle judiciaire de manière particulièrement grave, s'il y a une violation répétée du contrôle judiciaire, par exemple si on est parti de son centre éducatif fermé. Pour des faits délictuels tels qu'ils étaient, eh bien pour des faits correctionnalisés, on ne peut pas placer en détention provisoire un mineur de 15 ans sans antécédent.
C'est QFD. Voilà.
Écoutons Georges Fenech sur ce qu'il disait ce matin sur antenne de CNews.
Vous vous souvenez de la formule qui avait fait mouche du Premier ministre Gabriel Attal ? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On aurait voulu entendre, tu commets une agression, tu vas en prison. Ça n'a pas été dit. Parce qu'on ne veut plus d'incarcération pour les mineurs. C'est clair, c'est une volonté de ne jamais placer un mineur en détention. On a supprimé les courtes peines, on a scindé le procès pénal des mineurs entre le jugement de culpabilité et 9 mois plus tard, le jugement de condamnation. Donc vous avez un jeune qui commet des agressions violentes avec armes qu'on relâche aussitôt. Alors il faut évidemment revoir la question d'excuses atténuantes de minorité.
Oui.
Il faut abaisser, me semble-t-il, la majorité pénale à 15 ans aujourd'hui. Il faut des comparutions immédiates et il faut des courtes peines et des sanctions immédiates. C'est la seule chose que comprennent certains délinquants.
Est-ce que
les études des criminologues ont démontré que les courtes peines d'emprisonnement avait un effet très positif dans la lutte contre la récidive. Le mineur qui se voit tout à coup privé de liberté, ne serait-ce que 15 jours, il prend conscience. Si vous le relâchez, qu'il rentre dans son quartier avec comme seule obligation de rencontrer un éducateur, il ne prend pas conscience de la gravité de ce qu'il commet.
Non mais au-delà de ce que dit Georges, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire entrer sur le sol de France ces gens-là.
Oui, mais bon.
Moi, je vous le dis. Je pense que c'est...
faut arrêter, en fait.
Vous savez pas,
mais pas le faire entrer des mineurs isolés sur le sol de France qui baladent avec des couteaux.
Excusez-moi, Pascal, mais vous ne savez pas.
Il n'est pas mineur isolé, hein. Il n'est pas mineur isolé, il est avec sa famille. Sa famille est en situation régulière. Ce n'est pas un mineur isolé.
Vous ne connaissez pas son histoire. Ce qui est extravagant, d'une certaine manière, si on voulait caricaturer sur les histoires d'Afghans, c'est que ça fait 50 ans qu'il y a le chaos là-bas. Bah oui. Là, pendant 15 ans, après l'intervention américaine en 2001, pendant plus de 20 ans, on a déversé des milliards de dollars sur l'Afghanistan pour y installer une démocratie, un état de droit, en vain. Tout ça a été balayé il y a 2 ans quand les talibans sont revenus au pouvoir. Mais pendant toutes ces années où vous aviez un gouvernement soi-disant élu, avec une force américaine puissante, avec des soldats français qui sont allés mourir sur le terrain, on accueillait quand même des réfugiés ici. Ce qui était quand même une aberration. On accueillait des réfugiés alors que nous, on se battait en Afghanistan pour étayer l'État. Aujourd'hui, alors que les talibans sont revenus au pouvoir, des réfugiés afghans qui demandent l'asile politique à la France, ce serait tout à fait normal. Ce serait naturel que des femmes viennent se réfugier ici, par exemple. Mais pendant toutes ces années précédentes, c'était quand même une vraie curiosité d'accueillir des Afghans alors que leur pays était en train de se construire dans
la question, Vincent, de démocratie. Est de savoir si on peut accueillir des gens dont on n'a pas capacité à les intégrer.
Eh bien, la réponse est non.
On ne connaît pas
voilà.
l'histoire.
Comme mais... ça, je vous donne tout de suite la réponse et ça sera plus simple.
Et c'est toute proportion gardée le même problème pour certains Tchétchènes.
Givor. Le mineur est en garde à vue.
Ah, il y a plusieurs mineurs en... Oui. Vous parlez de Givor, hein.
Non, alors, pour terminer sur Châteauroux, il est en garde à vue. Bon. Alors Givor, des violences urbaines près de Lyon, dans la soirée de samedi, des individus ont brûlé 2 voitures de la police municipale stationnées dans le parking de la mairie, place Jean Jaurès à Givor. Je voudrais qu'on voit le sujet et vous allez nous donner des informations.
Ce samedi vers 18h, suite à une agression commise sur un adolescent, 5 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en garde à vue. Pendant l'intervention, les policiers sont pris à partie. Pas de blessés, mais vers 22h, une trentaine de jeunes jettent des projectiles dans la cour de la mairie, où 2 véhicules de la police municipale garés juste ici sont incendiés. Sur X, la préfète de la région apporte son soutien aux forces de l'ordre.
La préfète condamne fermement les violences commises à Givor envers sa municipalité et sa police.
Un énième épisode de violence en plein centre-ville, les habitants sont à bout.
C'est de plus en plus souvent et... Il y a un sacré ras-le-bol quand même, quoi. Samedi dernier, déjà, il y a eu pas mal de grabuges. Après, ça faisait un petit moment que ça s'était calmé, malgré tout. Et ça reprend de temps en temps. On ne sait jamais vraiment à l'avance, en fait.
Depuis quelques temps, il y a souvent des réunions de jeunes, ici, à côté de la mairie, qui sont un peu douteuses. C'est de plus en plus commun, en fait. Alors avant, je savais que c'était un peu plus chaud vers les quartiers. On se disait qu'on était tranquille au centre-ville. Et petit à petit, disons que ça se décale et puis ça arrive de plus en plus vers les centres-villes et c'est un peu compliqué, quoi.
Des renforts de la police nationale sont restés mobilisés toute la journée d'hier et cette nuit.
Est-ce qu'on a des informations sur...
On a des informations sur ce qui a provoqué ces violences urbaines le soir. C'est que, selon plusieurs sources... Il y a eu une arrestation. Un jeune de 14 ans s'est fait agresser samedi après-midi. 5 personnes ont été interpellées dans la foulée. Ce sont des mineurs. Ils sont âgés de 12 à 16 ans. Donc, le mineur de 12 ans a été remis à sa famille. Les 4 autres sont en garde à vue. Ils sont soupçonnés donc, d'avoir agressé le mineur de 14 ans. Et selon plusieurs sources, c'est suite à ça, en représailles, qu'il y a eu ces violences urbaines le soir.
Représailles aux arrestations. Donc, il n'y a pas eu de personne n'a été blessée dans ces arrestations.
Ah bah
c'est juste qu'ils ne sont pas contents qu'on ait arrêté des suspects.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est les éventuelles blessures de l'adolescent initial.
Et c'est agible. Si vous ne changez pas de logiciel, mais complètement, sur tous ces sujets-là, ça continuera. Donc il y a un moment, effectivement, il est possible que... C'est les électeurs qui demanderont.
Je le demande déjà.
Le parapluie nucléaire. Emmanuel Macron sous le feu des critiques après ses propos sur l'arme nucléaire, Vincent Hervouet. Le chef de l'État a indiqué samedi vouloir ouvrir le débat. Alors tous les jours il parle, Emmanuel Macron, tous les jours il dit quelque chose. Et est-ce que c'est l'essentiel de parler de ça dans la France d'aujourd'hui? il est le seul juge. Il veut ouvrir le débat autour de la défense européenne comprenant l'arme nucléaire française. Donc samedi, dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA, le chef de l'État a indiqué vouloir ouvrir le débat autour de la défense européenne qui, outre les armes de longue portée antimissiles, pourrait comprendre les armes nucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ben, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de considérer que, par exemple, attaquer, si l'Allemagne était attaquée, les intérêts vitaux et essentiels de la France seraient en cause et donc ça pourrait justifier l'utilisation de l'arme, la mobilisation de l'arme nucléaire. Alors, est-ce que ça veut dire la mutualisation européenne de la force de dissuasion française ? C'est évidemment comme ça que beaucoup l'interprètent et disent c'est une aberration totale. Si vous voulez, la doctrine, la grammaire du nucléaire en France, ça a toujours été la même depuis les années 60, c'est-à-dire imaginer que la France, si elle était attaquée par une puissance beaucoup plus importante, à savoir la Russie, eh bien, mettrait sa vie même sur la table, en se proposant de vitrifier un certain nombre d'objectifs chez l'ennemi, quitte à mourir aussitôt. Vous voyez ? Si vous me touchez, je vais tout faire sauter. C'était à peu près ça, la logique. Alors, évidemment, si vous le mutualisez avec une chaîne de commandement qui s'allonge, avec toutes sortes d'intervenants qui viennent dire « oui, peut-être, ah, mais peut-être pas », etc., etc., vous perdez tout crédit. Le bluff ne fonctionne plus. Le bluff ne fonctionne plus.
Et pourquoi il fait ça ?
Ah ben, c'est l'idée qu'il faut une défense européenne. Là, c'est l'ouverture d'un débat. Alors, bon, je vous raconte ça d'une manière très caricaturale, très schématique. On peut en parler pendant des heures, mais là, on n'a plus vraiment le temps.
Mais c'est juste, c'est cohérent. Emmanuel Macron, il nous parle de souveraineté européenne depuis des années. C'est le seul domaine sur lequel on est à peu près sûr de ce qu'il pense. Simplement, je suis d'accord avec vous globalement, il y a simplement un correctif. Je crois avoir compris qu'il ne parlait pas de mutualiser la décision.
Alors, non, évidemment. Mais ça, il n'a pas franchi le Rubicon. Mais c'est le procès qu'on lui fait.
Vous avez raison, c'est que le nucléaire, c'est national. Or, Emmanuel Macron ne veut plus de national. Il veut passer au poste national.
Nous l'avions annoncé, dit Marine Le Pen, il a nié, il mentait. Emmanuel Macron souhaite bien partager avec l'Union européenne notre dissuasion nucléaire.
Non, bah, c'est ça qu'il dit, hein, quand même.
C'est compliqué, oui. Il faut financer, donc il faudrait peut-être prendre une heure.
Et puis, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que, arme nucléaire ou non, là, la situation dans laquelle est l'Union européenne, c'est qu'elle sait qu'elle ne peut plus compter sur les États-Unis. Ça veut dire, on le voit depuis quelques années. On l'a vu d'abord sous Obama, quand Obama a marqué un retrait américain de la scène internationale.
Mais il paye toujours.
Trump a été, si vous voulez, le grand moment où la parole américaine s'est discréditée. On ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis l'année prochaine. Donc évidemment qu'il faut complètement repenser le poids diplomatique, le poids géopolitique que peut avoir l'Union européenne.
Je vous propose quand même de voir le sujet de Juliette Sada, parce que pour que les choses soient claires sur ce parapluie nucléaire, et on en parle ensemble.
Oui, c'était pas très clair en fait ce qu'on a raconté.
L'arme nucléaire mise au service de l'Europe. Dans un entretien avec des jeunes pour les journaux du groupe EBRA, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat.
Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement, de manière crédible.
Une défense crédible, le président avait déjà plaidé pour cela à la Sorbonne ce jeudi. Une Europe puissante aux côtés de l'OTAN et face à la Russie, de plus en plus menaçante.
C'est une guerre qui bafoue le droit international, les frontières internationales européennes, et c'est une guerre qui nous menace. Si on laisse la Russie gagner et qu'il y a capitulation de l'Ukraine, c'est l'insécurité pour des décennies.
Objectif pour Emmanuel Macron, faire de l'Europe une puissance capable de se défendre, ainsi que réaffirmer la place de la France, seul pays des 27 États membres de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire.
Contrer une initiative allemande qui a été lancée il y a à peu près un an, en mai 2023, cette initiative allemande consiste à proposer, à mettre en place un bouclier antimissile européen qui protégerait donc les frontières de l'Europe d'attaques de missiles de toutes sortes. Donc il y a de fait des conséquences sur ce que la France appelle la dissuasion nucléaire, c'est notre capacité défensive.
Une prise de position qui fait débat. La défense de l'Union européenne est jusque-là assurée par l'OTAN.
Bon, c'est un débat complètement vain. Hein.
Oui, je crois que c'est ça. Oui, un débat complètement vain aujourd'hui. Je pense que
si on contrôlait les rues de Châteauroux avant d'essayer d'assurer la sécurité nucléaire de l'Europe, hein, franchement.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, en fait. Et c'est bien le problème d'Emmanuel Macron.
On peut se préoccuper.
C'est-à-dire que
Oui. Pour se préoccuper quand même. On est tous d'accord sur Châteauroux, mais on peut quand même se préoccuper de la situation de l'Europe.
La Corrèze et le Zambèze.
Le nucléaire.
On peut faire les deux.
Non, oui, on ne fait pas les deux. Alors on ne fait pas les deux. On vous répond précisément. Si on faisait les deux, il n'y aurait pas de problème. On ne fait pas les deux.
Sur le principe même de la dissuasion, la règle est assez simple. Oui. Moins on en parle, mieux ça vaut. Et on n'ouvre pas le débat. On suit une doctrine et on s'y tient.
Un mot sur l'Iran.
C'est une vieille question. Quand même.
Non, mais, c'est une vieille... mais on ne fait pas les deux.
On ne fait pas les deux.
Non, on est en train de déplumer notre armée.
On fait pas les deux.
On a doublé le budget.
L'Iran. Vous nous alertez ici que c'est sans doute un des régimes les plus terribles. Et à chaque fois que je vous ai entendu,
j'étais le 80 milliards. Vous m'avez beaucoup reproché. Elisabeth. Vous m'avez sévèrement tensé parce que je manquais d'enthousiasme face à la révolution en marche.
Oui, exactement. Mais je vous ai pas.
Des celles des femmes après. La mort de Mahsa Amini et malheureusement, la répression est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Il y a une pendaison, une exécution capitale par jour depuis le début de l'année.
Il y a vendredi inclus.
Et là, vous avez eu deux rappeurs, un qui a été condamné à 6 ans de prison et l'autre à la stupéfaction générale, qui avait d'abord été condamné à 6 ans, puis gracié en appel, a été recondamné par un tribunal révolutionnaire. Et il est condamné à quoi ? Il est condamné à mort pour avoir dans une chanson, pris la défense de ce mouvement qui a saisi toute la société iranienne il y a maintenant 2 ans et que les mollahs ont vraiment écrasé avec de manière absolument incroyable.
Il va être condamné à mort. Il y a quand même une
opinion. Il a été condamné à mort.
Oui, mais est-ce qu'il va être exécuté à votre avis ?
Ah, c'est pas sûr. Pas sûr. Non, vous savez, la question c'est quand même d'intimider. C'est pas de la dissuasion nucléaire, mais c'est vraiment le principe de la dissuasion à l'intérieur. Vous avez une petite caste en Iran qui tient la population dans la ligne de mire et dont tout le monde sait qu'ils sont absolument implacables. Et donc, condamner à mort et le laisser après quelques temps dans le couloir de la mort suffit à intimider et évidemment à terroriser la population. C'est un régime de terreur, hein, les mollahs. Ouais. Pas simplement quand ils envoient des missiles sur Israël. C'est un régime de terreur à l'intérieur. Ouais.
On peut quand même remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de rappeurs pour exprimer leur soutien absolu.
Et c'est pas qu'il y en a eu beaucoup,
leur scandale.
Eu...
Oui, c'était un euphémisme.
Faux, me dit Benjamin O. Qui est intervenu ? Il y a un rapport qui s'appelle Giorgio qui est intervenu. Ouais,
peut-être un, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été massif. Et sachant qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont très politisés, et ils ont tout à fait raison sur beaucoup de sujets, où ils expriment leur indignation, je veux dire, ils ne sont pas
particulièrement... Mais alors pourquoi, une fois qu'on a dit ça, pourquoi ?
Parce que ce sont
les amis du Hamas, quand on est... cher ami.
Justement, c'est une sorte...
Les rappeurs ne sont pas les amis du Hamas.
Non, mais attendez, les gens qui viennent de condamner à mort ce rappeur, ce sont... Les soutiens du Hamas.
Oui, mais pourquoi les rappeurs français?
Ce sont les champions de la cause palestinienne.
Mais pourquoi les rappeurs?
Donc nous avons avec l'Iran un sentiment très ambivalent. Oui, vous n'avez pas remarqué?
C'est pas la question. Pourquoi les rappeurs français ne défendent-ils pas?
C'est exactement la même question qu'on se posait sur Sciences Po. Pourquoi n'y a-t-il pas de blocage sur les Ouïghours? Pourquoi n'y a-t-il pas de blocage sur les Ukrainiens? Pourquoi n'y a-t-il pas de blocage sur mille et un drames
congolais?
Sur le Congo. Voilà. Il y a une forme d'humanisme.
Centaines de milliers de morts.
À géométrie variable. C'est tout ce que je remarque.
Bon, Wally Borda, c'est donc avec nous, Histoire secrète de l'Assemblée nationale. C'est vrai que. Alors, je parlais de ma génération et celle de Philippe aussi. On a connu plusieurs législatures. Et on s'intéresse. Merci beaucoup Sandra Buisson qui était venue évidemment et qui nous donnera des informations aujourd'hui si à Châteauroux les choses évoluent. On a connu toutes les législatures depuis qu'on s'intéresse à la politique. La première c'était sans doute 73, la première élection. Avant on était plus jeune, 73, il y a eu des élections en 78, il y a eu des élections en 80, en 86, en 88, en 93...
97.
Alors, 97.
Bon, dissolution.
Jamais on n'a vu une législature comme celle qu'on voit aujourd'hui, une sorte de bordélisation, pour reprendre le mot de Gérald Darmanin. Et pourtant, il y avait des grandes gueules à l'Assemblée. Il y avait par exemple quelqu'un qui s'appelait Robert-André Vivien à l'époque, dans les années 80 ou 90. Il y avait vraiment... Bon. Mais là, c'est autre chose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on est déformé simplement par notre regard ?
J'ai l'impression que c'est un peu des deux. C'est vrai que depuis juin 2022 et ces dernières législatives avec cette majorité relative, on s'est beaucoup ému du tumulte, de la véhémence des propos dans l'hémicycle. On en a énormément parlé, y compris moi dans les colonnes du Figaro. Et du coup, j'ai essayé de me pencher un peu sur l'histoire, oui. L'histoire de l'Assemblée nationale, les différents événements qui avaient jalonné, qui avaient marqué le temps. Et en fait, c'est vrai qu'on retrouve quand même des saillies fulgurantes, violentes, un peu à toute époque. J'ai commencé à la Troisième République, par exemple. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, il y avait une espèce de petite prison dans l'Assemblée nationale dans laquelle on enfermait les députés qui avaient été tumultueux pendant 24 heures.
Très bon, mais on sait ce qu'on devrait faire.
Et est-ce que vous saviez qu'il y avait à l'époque des députés qui...
France Insoumise, très régulièrement, j'imagine.
Peut-être, mais pas que. Est-ce que vous saviez aussi qu'il y avait à l'époque, lors des débats un peu tumultueux, des députés qui, à l'issue de ces débats, se retrouvaient à salle des quatre colonnes et se disaient « je vous demande réparation ». Et ça se terminait en duel à l'épée.
Alors, il y a eu un duel, le dernier duel en France, c'est Gaston Defferre, c'est vrai ça ?
Tout à fait. Gaston Defferre, qui était maire à l'époque socialiste de Marseille, avec René Ribière,
ouais.
Qui était un gaulliste. Et donc,
mais c'était un duel à mort ou c'était un duel
c'était
simplement ?
C'était un duel au premier sang.
D'accord.
C'était interdit, évidemment, en France à l'époque. Et donc,
premier sang, j'aime bien l'expression, ouais, un duel au premier sang. Vous m'en tiendrez, comment on dit, c'est l'expression
réparation.
Vous m'en ferez réparation.
Tout à fait.
Enfin, ça aurait une certaine un panache.
Vous finiriez pas l'année. Hein.
pour une toute petite saillie dans l'hémicycle, ils se sont retrouvés à se battre en duel au premier
sang. Alors, on va voir si vous êtes fort. Pas vous. Hein. Qui est Madeleine Brown ?
Madeleine, comment ?
Brown. Madeleine Brown.
Ah là, je sèche.
Eh oui.
On est viré.
Eh ben...
Je peux répondre ?
Oui.
C'était la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Ah. En 46 quand même, ça c'est bien.
Ah oui.
En 46, parce que depuis quand les femmes peuvent-elles se présenter ? Forcément depuis 45, parce qu'avant elles ne pouvaient pas voter.
Tout à fait.
Ce qui nous paraît, je vous assure, quand vous dites à nos enfants que les femmes ne pouvaient pas voter 45, c'est hier.
Ouais.
C'est hier. C'est hier.
Oui, c'est hier à l'échelle des siècles, mais.
Enfin, c'est quand même pas... Mais c'est sidérant quand même.
Ni faire un chèque.
Oui.
Comment ?
Ni faire un chèque.
Oui.
Plus important.
Incroyable. Vincent nous ramène toujours à l'essentiel. Non, mais le pognon, c'est quand même ça qui tient la société.
Alors, donc, elles peuvent voter depuis 45, mais quand on voit par exemple l'élection, combien il y a de femmes en 1981 lorsque qui sont élues dans l'Assemblée nationale ? Il n'y en a même pas 10%.
Non.
Même pas 10%.
Et aujourd'hui, il y en a plus de 40%.
Voilà. Donc, le basculement, c'est quand ?
Le basculement, c'est Emmanuel Macron en 2017.
Avant, il y avait encore...
Ça a augmenté petit à petit avec les années, mais le gros basculement, c'est vraiment Emmanuel Macron en 2017.
Donc c'est histoire secrète de l'Assemblée nationale. Alors c'est pas vraiment secret, parce qu'Yann Braun-Pivet, c'est la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été élue. Bon, c'est une bonne chose que... une femme préside les débats de l'Assemblée nationale.
Pourquoi ?
Pourquoi c'est une bonne chose
que ce soit une femme ? Non mais j'arrive pas à comprendre.
C'est une bonne chose qu'une femme puisse.
Oui, ça je suis d'accord.
Ça montre qu'une femme.
Vous êtes la seule à pouvoir le dire sur ce plateau.
Oui, c'est.
Bon, alors, à gauche, et c'est ça qui nous intéresse, ferme ta gueule, il est un peu plus de 17h30, ce 9 février 2023, dans la petite cour de l'Assemblée nationale, Louis Boyard hurle sur Erwan Balanant. L'élu du Modem reproche au député LFI d'avoir publié un peu plus tôt sur Twitter la liste des parlementaires ayant voté contre une mesure qui aurait permis à tous les étudiants de payer leur repas 1 euro, et de ça. Bon, eux, c'est l'insulte, effectivement, parce que Louis Boyard, il n'a pas tous les codes, manifestement, de l'Assemblée nationale.
Oui, très clairement, les insoumis ont marqué ce début de législature par leurs insultes, leurs outrances.
Mais c'est contre-productif ou pas ? La grande question qu'on se pose, c'est ça, et personne ne peut répondre à cette question.
En tout cas, c'est contre-productif d'un point de vue du débat, puisque, par exemple, sur la réforme des retraites, où ils se sont vraiment énormément illustrés par ces outrances-là, le débat n'a pas pu aller au bout.
Oui, mais est-ce qu'à votre avis, est-ce que ça sert les gens qui votent pour eux, ou est-ce qu'au contraire, ça les éloigne ?
Ils confortent probablement leur électorat. mais repousse les personnes qui ont pu voter utile lors des dernières législatives. On le voit d'ailleurs dans les dernières enquêtes d'opinion sur les européennes où c'est la liste de Glucksmann un peu plus centrale, si je puis dire, à gauche, qui recueille ces électeurs-là.
Vous parlez également d'un huis clos qui est devenu une grande médiatisation. C'était le 15 mars 2023. Trouver un accord sur la très contestée réforme des retraites. Il s'agit désormais, dans cette réunion à l'abri des regards, nommée commission mixte paritaire, de trouver un consensus sur les différents points du texte. Et ça, vous savez ce qui s'est passé ce jour-là ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, la CMP, c'est assez intéressant. Personne ne connaissait ça avant cette législature, finalement, à part les députés et les sénateurs eux-mêmes, parce que c'est un endroit où ils se réunissent à 14 pour trouver un accord sur un texte. Et là, ce jour-là, c'était réforme des retraites, donc c'était le tumulte, etc. Sept députés, sept sénateurs, et là, ce jour-là, les communistes, les écologistes, les socialistes et les insoumis ont fait en quelque sorte un live tweet de tout ce qui se passait, alors que c'est totalement interdit. Ils ont pris leur téléphone et ils ont publié tout ce qui se passait. Ils ont même ouvert un Google Doc pour les journalistes, pour que les journalistes puissent presque retranscrire en temps réel tout ce qui se passait au sein de la commission mixte paritaire. Donc ce jour-là, ils ont en quelque sorte démocratisé, rendu public des débats qui n'étaient pas censés l'être.
Bon, bah écoutez, je rappelle votre livre, Histoire secrète de l'Assemblée nationale, c'est aux éditions du Rocher. Coup de sang, intrigue, jeu de pouvoir, et pour ceux qui aiment l'histoire du palais Bourbon. Pourquoi on dit palais Bourbon ?
On dit palais Bourbon parce que ce palais appartenait à la duchesse de Bourbon.
Lui rendre.
Mais il était construit comme
il
ça
a été avec construit des... pour la duchesse de Bourbon.
Et alors c'était quoi l'hémicycle ?
L'hémicycle, alors après la Révolution, l'hémicycle siégeait... À Versailles.
Oui, mais cet hémicycle, cette salle...
Cet hémicycle a été construit ensuite.
Oui, bien sûr. Et c'était quoi alors ?
Alors, il y avait des écuries, il y avait plein de choses à la place.
Ça explique ça, si c'était des écuries. Non. Mais vous êtes tout centré dans l'Assemblée nationale,
oui.
J'imagine.
Ouais, ouais, ouais.
C'est très surprenant parce que c'est une boîte à chaussures. Quoi. T'as l'impression que c'est tout petit. En fait, alors que à la télévision, c'est...
Il y a du vacarme. Ce qu'on voit pas à la télévision. Oui, mais parce que le son est très, très bien capté, mais c'est un bruit de fond permanent. Même quand les séances se passent bien, on n'entend rien.
Et quand on y est, on ressort avec des acouphènes.
Ouais. Ouais. Maxime Le Guay nous rappelle les titres du jour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous venons de l'apprendre. Gérard Depardieu est convoqué par la police en vue d'une éventuelle mise en garde à vue au sujet des accusations d'agression sexuelle qui le visent. Le comédien est mis en cause par deux femmes. Les faits reprochés se seraient déroulés sur le tournage de films en 2014 et en 2021. Et puis ce drame absolu à Châteauroux, le jeune Mathis, 15 ans, tué à coups de couteau samedi en fin de journée. Le suspect est un Afghan du même âge. Il a été placé en garde à vue avec sa mère. Ce mineur était défavorablement connu des services de police, déjà interpellé deux fois, à chaque fois pour des vols avec violence. Enfin, au moins 5 personnes ont été tuées par les nombreuses tornades qui ont balayé une partie des grandes plaines au centre des États-Unis. Après que 78 tornades ont été enregistrées vendredi, 35 autres ont été dénombrées samedi du nord du Texas au Missouri. Les opérations de déblaiement se poursuivent ce lundi.
Voilà une nouvelle semaine qui commence et avec des informations une nouvelle fois dramatiques. Merci Walid Bordas. Vous êtes au Figaro, hein, je l'ai dit.
Tout à fait.
Qui est un journal remarquable. Et ça, faut le dire.
Je suis bien d'accord.
Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire chaque jour
Le Figaro.
Figaro.
C'est bien Figaro.
Exactement, qui est un journal
remarquable.
Oui, parce que il est pluraliste. Il permet d'écouter des sons de voix différents. Le papier,
par exemple. C'est le quotidien de gauche que je préfère, moi aussi.
C'est le quotidien de gauche que vous préférez.
Oui.
Tout n'est qu'ironie chez vous. Mais vous n'avez pas tout à fait tort, d'ailleurs, parfois. Oui.
Je veux dire, le
Figaro est infiniment plus ouvert que d'autres, que par exemple Libération ou Le Monde.
Mais il est plus lu aussi.
Il est plus lu aussi. C'est vraiment un remarquable journal. Donc c'est très bien de le dire, parce que la presse écrite doit vivre. Gérald Ventura était à la réalisation. Merci à Ludovic Liebar, qui était à la vision, à Grégory Possidalo, qui était au son. Merci à Benjamin Noé, à Pauline Trezer, qui était avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Coucou à notre amie Marine Lançon. Elle sera de retour demain. Et bonne journée à vous, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.